Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Le concile de 879-880 et ses suites. Nous avons exposé le déroulement et les conclusions du 8e concile œcuménique, 4e de Constantinople, tenu en 869-870, et qui avait condamné Photius. Nous avons vu la dernière fois que Photius avait fini par se réconcilier avec son rival Ignace, puis par retrouver son siège de patriarche d'Alexandrie. Confronté à ce retournement de situation, le pape Jean VIII avait choisi d'adopter une attitude plutôt conciliante, demandant cependant à Photius de faire amende honorable, de renoncer à la juridiction de Constantinople sur l'Église bulgare et de ne pas inquiéter les prêtres et les évêques qui avaient été ordonnés par Ignace. Il était même allé très loin dans son jugement sur Constantinople IV en écrivant, je le cite, « Nous voulons qu'on promulgue devant tout le synode que le concile qui s'est tenu soit à Rome, soit à Constantinople contre le patriarche Photius, au temps du très saint pape Adrien, soit à partir de maintenant annulé et sans valeur, et qu'on ne le mette pas au nombre des autres saints conciles. » Les courriers dans lesquels le pape exposait ses conditions avaient été confiés à des légats, partis de Rome en août 879, pour participer à un nouveau concile destiné à régulariser la réhabilitation de Photius. Ces courriers étaient au nombre de 4, un pour l'empereur, un pour Photius, un pour les évêques des 4 patriarcats d'Orient et un pour les adversaires de Photius. Quand les légats du pape arrivent à destination, Photius a déjà tout organisé pour que le nouveau concile efface l'humiliation qu'il a subie 10 ans plus tôt à Constantinople IV. Il a pris soin en particulier que les évêques présents soient très nombreux, près de 400, alors que Constantinople IV n'en comptait pas une quarantaine. Et naturellement, Photius présidait lui-même le concile. Dès le début, l'évêque Zacharie de Chalcédoine donne le ton en critiquant ce qu'il appelle « la funeste ligne de conduite des papes Nicolas et Adrien 10 ans plus tôt ». Un extrait de son réquisitoire à l'adresse des envoyés de Jean VIII en témoigne, je cite « Vous êtes venus ici pour vous purger des plaintes et des accusations que tout le monde, ou à peu près, élève contre vous au sujet des injustices que vous avez commises contre nous. Et pour vous parler franchement, c'est pour vous que ce synode a été réuni. Oui, pour vous, mes pères et frères, et pour la Sainte Église romaine, dans l'intérêt de votre réputation, pour que les derniers restes du parti schismatique ne continuent pas à nous poursuivre comme les auteurs responsables des dissensions et des désordres. » On voit que, contrairement à ce qui était prévu, les légats du pape sont tout de suite mis en situation d'avoir à se disculper. Ils vont le faire de manière assez maladroite en déballant devant l'assemblée les cadeaux offerts par le pape au patriarche. Des ornements liturgiques, en particulier le pallium, qui devait être donné seulement après l'amende honorable de Photius, puisque ces ornements le supposaient déjà reconnu dans sa fonction. Mais le plus contestable est encore à venir. Quand on donne lecture des lettres du pape à l'empereur et à Photius, c'est dans une traduction grecque qui a été confectionnée pendant que les légats du pape se reposaient de leur voyage et qui en modifie le contenu. Il y est fait mention du pouvoir de lier et de délier conféré par le Christ à Pierre, mais pour signifier que les condamnations formulées 10 ans plus tôt contre Photius par, je cite, « un synode inique » sont purement et simplement annulées et que, de toute façon, les papes précédents ne les avaient pas acceptés. En effet, dit la traduction grecque arrangée, tout est fini, tout est répudié, tout est cassé, et tout ce qui a été fait contre lui est sans valeur. Bien entendu, la demande de pardon exigée de Photius est écartée, car, affirme encore le texte, les hommes qui brillent par la foi orthodoxe ne doivent pas être abaissés en les accablant sous le joug de la pénitence, mais rétablis dans leur premier honneur. Après cela, il n'y aura bien sûr plus aucune demande de pardon de la part de Photius, qui se contentera de remercier la Sainte Église romaine de lui avoir enfin rendu justice. Cette lecture de documents falsifiés va entraîner la volte-face des patriarches orientaux. les mêmes qui avaient approuvé ce qui s'était fait contre Photius, affirmaient maintenant la main sur le cœur que cela n'avait jamais été le cas. On s'est demandé si certains d'entre eux n'avaient pas été achetés. En tout cas, les légats du pape sont les témoins impuissants de ces revirements, et au bout du compte, ils vont signer une déclaration qui annule purement et simplement Constantinople IV. En voici le passage central. « Je rejette et j'anathématise le concile qui fut convoqué contre Photius dans la Sainte Église de Constantinople. Tout ce qui, de quelque manière que ce soit, a été fait contre lui à l'époque d'Adrien, de pieuse mémoire, alors pape romain, tout cela, je le déclare, conformément au commonitorium, les instructions qui ont été données par Jean VIII à ses légats, tout cela, abrogé, anathématisé et rejeté, et je ne place en aucun cas cette assemblée au nombre des saints conciles. » Le concile terminé, les légats repartent à Rome vers avril 880. Alors nous ne savons pas quelle fut la réaction du pape Jean VIII en voyant que ses instructions avaient été faussées et l'œuvre de ses prédécesseurs calomniée. S'il préféra ne pas ranimer le conflit, c'est aussi parce que la situation politique était très mauvaise. Les Arabes menaçaient directement l'Italie et l'aide militaire de Byzance était indispensable. Ce point explique aussi d'ailleurs en partie pourquoi les légats avaient tellement fait profil bas à Constantinople. Au bout du compte, cette période agitée s'achevait par le triomphe total de Photius. Même les concessions faites à propos de la Bulgarie resteront finalement lettre morte. Et Jean VIII devra se contenter d'une protestation symbolique à l'adresse de Photius. Je cite « Bien que nous soyons décidés à traiter avec toi par écrit et par oral avec une modération exceptionnelle, nous nous étonnons pourtant de ce que tant de choses que nous avions fixées aient été changées, transformées, et sans que nous sachions par la faute ou l'intention de qui, dénaturées. » Pauvre pape Jean VIII, sa fin sera d'ailleurs tragique. Il sera empoisonné par des gens de son entourage qui, voyant que le poison tardait à faire son effet, l'achèveront à coups de marteau. Après quoi, son écuyer, lui en donné le coup de grâce, prendra la fuite pour Byzance en emportant le trésor papal dans ses bagages. Les lendemains de ces événements seront compliqués aussi pour l'Église grecque. Photius, proche de l'empereur Basile, sera détesté par son fils Léon VI, qui avait pourtant été son élève, car Léon VI avait lui-même des relations exécrables avec son père. À peine arrivé sur le trône en 886, Léon VI fait arrêter Photius et l'accusant de trahison et de complot, et Photius est pour la deuxième fois acculé à la démission, puis vraisemblablement assigné à résidence dans un monastère où il mourra. Ignace était mort en 877, mais même après la mort des deux rivaux, l'Église d'Orient restera durablement divisée entre partisans de l'un et de l'autre. Et c'est finalement le pape Jean IX, élu en 898, qui écrira, je cite, « Nous acceptons et confirmons Ignace, Photius et leurs successeurs dans le même ordre que les ont reçus les très saints papes Nicolas, Jean et Étienne VI et toute l'Église romaine jusqu'à maintenant, et nous leur rendons la grâce de la paix et de la communion. » On voit que dans cette triste affaire, il y a eu des torts des deux côtés. Il reste que dans le dialogue écuménique actuel, on a du mal à discerner si le concile à retenir comme écuménique est vraiment Constantinople IV ou bien celui qui a réhabilité Photius 10 ans plus tard. J'ai déjà cité le père Jean Meyendorff, grand théologien orthodoxe du XXe siècle, qui considérait que le véritable concile d'union, méritant le nom d'écuménique, c'était celui de 879-880 et non celui de 869-870. Mais comme on l'a vu, le second concile n'était pas vraiment marqué au coin de l'irénisme, ni même de l'honnêteté. Et puis, dans ces conditions, doit-on parler de saint Photius, comme le font les orthodoxes? Ces questions ne sont pas encore tranchées à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Photius, avec tous les événements qui l'ont accompagné, a marqué une étape décisive dans l'éloignement dramatique entre l'Orient et l'Occident, qui a conduit au schisme de 1054. Nous y reviendrons la prochaine fois.